podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dossier de Frontières des séries. Aujourd'hui, House of Cards, qui est le remake d'une mini-série de la BBC, elle-même tirée d'un roman de Michael Dobbs et qui suit le dessin machiavélique de Francis Frank Underwood, un sénateur démocrate influent dans les dessous du pouvoir à Washington. Elle a été créée par Beau Willimon, connu pour l'écriture de la pièce et du film Les Marches du Pouvoir, réalisé par George Clooney, et qui a pu observer le monde politique de près en tant que volontaire lors de campagnes électorales américaines. Mais elle est surtout portée par le nom de David Fincher, coproducteur et réalisateur des deux premiers épisodes, et qui lui a donné son identité cinématographique, et par les interprètes du couple Underwood, Kevin Spacey et Robin White. Produite par Netflix, la série a remporté le premier Emmy pour une online-only web television série et le Golden Globe de la meilleure actrice. Pour nous en parler aujourd'hui, Sophie Sourdieu-Courret et Loïse Roir, bonjour.
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 On en a beaucoup entendu parler, Sophie, et surtout de la force du personnage de Frank Underwood. Alors, est-il aussi horrible que ça ?
Bah, c'est peu de le dire quand même, hein. La première scène de la série ne laisse pas vraiment planer le doute sur la nature du personnage principal. Le chien des voisins se fait renverser par une voiture, et Frank s'adresse à la caméra en disant « Il y a deux types de douleurs, celle qui vous rend fort ou la douleur inutile, qui n'est que souffrance. Et j'ai pas la patience pour les choses inutiles. » Et il achève le chien en l'étranglant à main nue. Bon, on pourrait se dire, il a pitié du chien, c'est un geste plutôt humain. Mais plus on avance dans la série, moins on a de doutes sur son caractère.
Il y a deux types de pain. Le sort de pain qui vous fait fort, ou le sort de pain inutile. Le sort de pain qui est seulement souffrant. Je n'ai pas de patience pour les choses inutiles. Moments comme ça ont besoin de quelqu'un qui va agir. Qui va faire la chose unpleasante, la chose nécessaire. There. No more pain.
Et c'est là qu'on se dit que les autres personnages de la série auraient peut-être mieux fait d'être à la place du chien, non ?
Au fur et à mesure de la série, oui, on s'en rendra compte, ça arrive. Je ne vais pas spoiler, mais voilà. Frank Underwood est un membre du Congrès influent à Washington. Il est le Majority Whip. C'est lui qui use de son influence pour faire voter les lois, quitte à salir les mains. Il détient donc un grand pouvoir, et lors de la victoire des démocrates à la présidentielle, Frank s'attend à être promu secrétaire d'État aux affaires étrangères, comme on lui avait promis. Mais lors de son rendez-vous dans le bureau du président élu, il apprend qu'il restera au Congrès car le président a besoin de lui pour diriger la majorité démocrate. Autant dire qu'il ne va pas vraiment apprécier la nouvelle. Et il va mettre tout son talent à se venger et à prendre la place qu'il pense mériter, quelles qu'en soient les conséquences.
La méchanceté de ce personnage était déjà présente avant, ou bien c'est le fait qu'il ne soit pas nommé qui va le rendre comme il est ?
Il a toujours été assez froid. Il a une ligne de conduite. Il veut le pouvoir. Il s'en fout du fric. Il le dit clairement. Voilà. Il veut le pouvoir. Il veut monter les échelons. Mais même si on sent qu'il a toujours passé les barrières, qu'il était toujours un peu limite au niveau de la légalité, au niveau de la morale, on ne l'explique pas clairement, mais on ressent qu'il n'a jamais été aussi loin que ce qu'il s'apprête à faire, en tout cas.
D'accord. C'est une espèce de Jim Profit des années 2010, en fait.
Alors, il y a sa femme aussi, parce que c'est un couple très fort, comme souvent dans la politique américaine. Donc, sa femme, c'est Claire. Elle est responsable d'une ONG qui s'appelle Clean Water Initiative. Et elle fait partie de ces épouses influentes, capables de collecter des millions de dollars pour des causes diverses. Ils n'ont pas d'enfants, et malgré une certaine ouverture dans leur couple, ils semblent très amoureux. Et dans un aparté, Frank dit même d'elle « J'aime cette femme, je l'aime plus qu'un requin aime le sang ». C'est charmant, n'est-ce pas ? Car oui, Kevin Spacey nous parle directement à nous, spectateurs.
Curieusement, cette technique de réalisation, qu'est-ce qu'elle apporte en fait ? Qu'est-ce que les facecams de Frank Underwood apportent ? Et quand est-ce qu'ils apparaissent précisément ?
C'est vrai que c'est plutôt déconcertant, on n'a pas l'habitude. C'est assez rare au cinéma et à la télé, c'est plus un langage théâtral. Donc c'est déconcertant au début et il est le seul à le faire dans la série. Donc dès le départ, on sait que la série n'est focalisée que sur lui.
C'est probablement pour ça que j'ai pensé à Profit, puisque c'est une technique qui est utilisée dans cette série-là aussi.
Les apartés, ils apparaissent pour nous dévoiler les vrais projets de Franck. On n'a pas de doute sur la véracité de ses propos quand il nous parle à nous. Par contre, on sait très bien qu'il ment aux personnes avec qui il est en train de parler, mais on sait qu'il nous ment pas. On sait absolument où il va, et non, il va pas être gentil avec les gens autour de lui. Et il y a une autre particularité, c'est les SMS qu'il échange avec certains personnages, dont Zoé et son chef de cabinet. Ils sont affichés, ils arrivent comme des petits phylactères du bas de l'écran, surgissant, et comme ça on a la possibilité de lire ce qui se dit sans devoir trouver un processus narratif pour qu'ils expliquent ou passent au-dessus de l'épaule. Donc finalement, c'est un peu bizarre au début, mais au fur et à mesure de la série, on s'habitue, on se dit que c'est utile.
Ça nous met en position de dieu omniscient qui voit tout, en fait.
Tout à fait. Et de plus en plus, au fur et à mesure de la série, parce qu'on est très détaché, comme on n'arrive pas vraiment à s'attacher au personnage, en tout cas au personnage principal, parce qu'il est vraiment machiavélique, cet aparté et ses phylactères, ça nous éloigne encore plus, comme au théâtre, ok, on est assis, mais on n'est pas du tout acteur de ce qui se passe devant nous. Alors, il y a évidemment beaucoup de personnages qui gravitent autour du couple Underwood. Il y a Freddy, le cuistot d'un boui-boui servant d'espérips dans un quartier craigneux de Washington, où Franck se rend régulièrement pour déjeuner. Et c'est d'ailleurs le seul personnage pour qui Franck a de l'affection. Il va pas le trahir, comme ce gars, c'est juste un gars qui sert un vieux black sans le sou. Mais avec lui, il est assez franc. Le gars, il a pas de doute non plus sur la personnalité d'Underwood. Et il se soucie vraiment de lui sans arrière-pensée. Jusqu'à un certain moment de la saison 2. Mais bon, voilà, on n'ira pas jusqu'à là aujourd'hui. Il y a aussi Zoé Barnes, une jeune journaliste ambitieuse qui n'hésitera pas à coucher avec Franck pour avoir des infos au plus près du pouvoir. Mais Franck étant plus malin qu'elle, évidemment, il la rencarde uniquement sur ce qui va l'aider lui à arriver à ses fins. Et pour arriver à ses fins, il utilise Peter Rousseau, un membre du Congrès, alcoolique et cocaïnomane, père de deux enfants. Il l'utilise comme un pion. Et après l'avoir sorti de prison pour conduite en état d'ivresse, il a un vrai pouvoir sur lui. Mais l'ivresse et l'arrestation, c'est évidemment Franck et son cabinet qui l'ont orchestré pour avoir du poids sur Rousseau. Et dans une manœuvre politique, Franck fait fermer le chantier naval de 12 000 emplois pour la défense duquel Rousseau a été élu. Excédé par le comportement de Franck, Rousseau se rend chez lui, défoncé, et il menace, et il menace Claire. Mais évidemment, Franck, avec toute sa verve, arrive à lui retourner le cerveau, il le calme, il lui dit « reste », il lui fait couler un bain. Et quand le bain est coulé, il lui tend une aspirine et une lame de rasoir, et il lui dit « vas-y, assieds-toi ». L'aspirine et le bain chauffe lui diffusent le sang, voilà la lame de rasoir. Ou bien tu te reprends. Et il pousse Rousseau à se présenter comme gouverneur de son état, pour avoir évidemment une autre main mise, et pour pouvoir faire tomber certains membres du gouvernement, évidemment, en faisant passer des manœuvres politiques qui feront tomber les gens au-dessus de lui, donc lui pourra monter d'un échelon.
De ce que t'expliques là, au fur et à mesure, on a bien compris que le personnage principal, on a beaucoup de mal à s'y identifier parce que c'est une ordure finie. À part le cuisinier dont tu nous as parlé au début, je ne trouve pas que les autres personnages soient beaucoup plus reluisants. Est-ce qu'il y a une identification possible avec ne fût-ce qu'un seul personnage de cette série ?
Dans la première saison, Zoé Barnes, ok, elle couche avec lui et elle n'a pas une grande morale, mais on arrive quand même un peu à s'attacher à elle. Mais non, à part ça. Mais Peter Rousseau est un personnage attachant, hein, parce que c'est un père de famille. Je veux dire, son problème, c'est sa dépendance. Mais c'est un gars qui a été élu parce que, vraiment, il avait des convictions, c'est un gars qui bosse. Mais bon, évidemment, Franck a vu la faille, il l'utilise, et il va le mener à sa perte. Et d'ailleurs, c'est vraiment le destin de Rousseau qui va nous enlever tout doute sur la vraie nature de Franck Underwood. À la fin de la première saison, Zoé Barnes et deux autres de ses collègues journalistes commencent vraiment à comprendre toutes les manœuvres de Franck et ils essaient de rassembler des preuves contre Franck pour avoir fait tomber Rousseau. Mais ils se rendent vite compte qu'il a un tel pouvoir, il les menace. Ils se rendent compte que de toute façon, c'est quasiment impossible de faire tomber quelqu'un avec autant de pouvoir.
There are three people in the world that know what he has done and one of them is gone. If we had anything, Lucas, any hard evidence or even a fucking quote from a source that will go on record for us, that would be one thing. But we are grasping, and he is not fucking around.
You were the one who told Zoe to pursue this. She told me what you said. The only stories that mattered were the ones that scared you to death.
Okay, this isn't just death threats. This is real. He doesn't know about you, but he knows about me. These were in my mailbox. No return address.
But these are her?
Who else? You can keep them, but I don't think they're gonna help you.
Stop.
Sick fucking shit.
Janine, you cannot run away from this.
My entire career, I have always chosen the tough stories. I have been fearless.
But you know what? I'm really fucking scared this time. He's got power. He's got a lot to lose, and right now he is winning.
Please, I need your help. Please,
just
don't do this.
Just wake the fuck up, Lucas.
On l'a vu pour Frank Underwood, on est face à une véritable crapule, mais ce qui est quand même une petite lueur d'espoir concernant ce personnage.
En tant que spectateur, on ne peut pas s'empêcher de chercher une facette positive, même si, depuis le départ, on sait bien que Frank Underwood, il ne sert que sa propre cause. Il n'a même pas comme intérêt la grandeur de son pays, son patriotisme, pas du tout. Il ne sert que lui. Mais on cherche. Et dans l'épisode 8 de la première saison, on nous met un petit doute, un épisode plus touchant où le couple Underwood inaugure une bibliothèque dans l'ancienne école militaire de Frank et il retrouve son ancienne bande d'amis. On comprend même qu'il a eu une aventure avec l'un de ses potes. Et la relation d'amitié avec ces gars-là, elle est sincère, ce qui nous révèle une autre facette de Frank. Mais c'est pas vraiment une autre facette de Frank parce que c'est le Frank du passé. Et même si à ce moment T-là, il ressent des émotions d'avant, il va tout de suite compartimenter, il va dire « Ok, ça c'est avant, on le voit dans le regard de Spacey, ça c'est avant, il va remettre son masque, il va rentrer à Washington. » Le peu d'espoir qu'on avait eu est vite balayé et on comprend que c'était bien derrière.
On est face ici à une série politique, est-ce qu'on est pour autant face à une forme de propagande liée à un parti plutôt qu'à un autre ?
Pas du tout, et on n'est pas non plus face à une propagande de politique américaine, parce que si c'était le but, c'est très raté, car ça nous dégoûterait plutôt du système qui est complètement corrompu dans la série. On est très, 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 très loin de l'univers de The West Wing, où Aaron Sorkin, lui, est totalement démocrate et il dépeignait de façon plutôt réaliste la vie à la Maison-Blanche avec un président et une équipe qui servait avant tout l'État. Alors attention, dans House of Cards, l'un des seuls personnages épargnés par la plume acérée des scénaristes, c'est le président, qui est plutôt tiède et effacé et qui se laisse aussi faire par Frank sans broncher. Mais en tout cas, lui a un vrai idéal politique. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, il n'est pas corrompu. Mais il est tiède.
Tu parlais du fait de dépeindre les choses de manière plus réaliste. Après, moi, je mettrais quand même certaines réserves. C'est sans doute deux séries avec deux types de réalité. Pour autant, il y en a peut-être une qui est lissée, l'autre peut-être un peu exagérée, mais
oui,
je trouve la réalité.
Il y a probablement un juste milieu, mais bon, on va pas refaire le dossier de West Wing, mais dans le West Wing, tout n'est pas rose non plus. Il y a des tas d'intrigues aussi, et de trucs un peu louches. À part le président, on n'est pas très très impressionné par l'engagement citoyen des protagonistes, principalement Frank, mais beaucoup d'autres ont des magouilles sous le tapis. C'est à peu près à tous les échelons, il y a des soucis. Alors, bien sûr, il y a certains instances judiciaires qui commencent à avoir des doutes sur la loyauté de Frank et du parti, mais généralement, il passe entre les mailles du filet, même lorsqu'il y a une commission d'enquête à propos d'un problème commercial avec la Chine.
When the money's coming your way, you don't ask any questions. But now it's clear. Lanigan's never been anything but a front. Do I tell the president? He'll wonder why I didn't know, which makes me look uninformed, or he'll blame the messenger for involving him, which makes me look careless. No, it's a trap. I must keep this to myself.
Un petit mot des acteurs, évidemment. Kevin Spacey, il cabotine, certes, mais c'est vraiment le personnage qui veut ça. Il est totalement à la hauteur de ce pervers sociopathe qui est Underwood, grand, fort et inébranlable. Il a d'ailleurs été entraîné à cet exercice par sa performance très connue de Richard III à Broadway il y a quelques années, dont justement l'auteur original d'Obs s'était inspiré, cite souvent Richard III de Shakespeare en référence. Puis on a Robin Wright, qui est parfaitement froide, ne montrant que très très peu d'émotions, comme le veut son personnage. Elle a été récompensée par un Golden Globe. Et justement, c'est cette froideur qui, pourtant, Robin Wright, dans ses autres rôles, en général, elle peut être assez expansive et amener beaucoup d'émotions. Ici, elle n'en amène vraiment que très très peu à certains moments. Mais elle passe très vite à autre chose, en fait. Il y a un moment à la fin de la saison 2 où elle a une certaine culpabilité. Elle se met à pleurer, mais genre ça dure 20 secondes. Et pourtant, le sujet est vraiment grave. Et pouf, elle repart à autre chose. Elle remet son masque et elle repart. Et c'est assez typique des deux personnages principaux. C'est cette capacité à avoir un masque tout du long. Il y a d'autres comédiens qui sont à mentionner, comme Mahershala Ali, qui interprète Remy Denton, un lobbyiste anciennement employé par Frank. Il y a Kate Mara, qui endosse le rôle de Zoe Barnes, la journaliste tuotée par Frank. Ou encore Corey Stoll, le très convaincant Peter Russo. J'ai aussi envie de vous parler du générique, qui est assez long, qui est 1 minute 20, qui est quand même assez long dans une série. Il est fait de plans aériens ou très larges de Washington, du lever du soleil à la nuit noire. Et la séquence est en accéléré, et avec les traces des voitures et l'eau du canal qui bouge, ça donne vraiment une impression que DC est une fourmilière toujours en activité. La caméra est très très détachée de la ville et elle passe sur les symboles de puissance tels les statues de Lyon, l'obélisque, le Capitole, la Maison Blanche, mais on voit aucune personne. Et c'est très subjectif à l'image de la série dans laquelle on ne peut pas s'identifier au personnage. On ne voit vraiment pas un seul humain dans le générique.
À l'origine, il faut savoir que cette série est basée sur une mini-série de la BBC. Quelles sont les connexions qu'on peut voir entre cette version américaine et l'original?
Le générique déjà, parce que dans la version de la BBC, qui est beaucoup moins frénétique évidemment, mais c'est totalement dans le même esprit avec des plans larges et des symboles de puissance. Et bon, flegme britannique oblige, la première scène n'est pas aussi violente, évidemment, et elle commence sur un aparté de Francis Urquhart, et non pas Underwood. Il est dans son bureau, il regarde une photo de Maggie Thatcher, dont le gouvernement vient de tomber, en disant « Nothing lasts forever ». Et les deux Francis parlent très lentement dans les apartés, en appuyant sur les mots, c'est vraiment une caractéristique. Et la série initiale de la BBC ne comportait que 3 épisodes, et donc il y a moins de détours, il y a moins de développement. Mais globalement, le personnage incarné par Ian Richardson en Angleterre est formé dans le même moule. Il parle aussi, et il a aussi incarné Richard III. Donc je pense que là, c'est vraiment, ça peut être la référence à Underwood, c'est Richard III.
Bon, on a bien compris, on te sent passionné, mais qu'est-ce que tu as pensé de House of Cards ?
Je suis passionnée de politique américaine de façon générale. La saison 1 m'a plutôt scotchée. J'ai été prise par l'intrigue, la tension entre les personnages et je me suis même attachée à certains. Mais la deuxième saison, qui pourtant commence en fanfare avec un très très bon épisode, dès le deuxième, le château de cartes commence un peu pour moi à s'effondrer et j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher pour continuer la seconde saison. C'est bavard, c'est encore plus lent que la précédente, c'est sans grand intérêt au niveau des intrigues. Comme on a vu dans la première saison, on avait toute cette histoire avec les journalistes et tout. Ici, c'est juste un problème de commerce sino-américain. On va se rendre compte à la toute fin de la deuxième saison que c'est important, évidemment, on place des pions. Mais en regardant de façon quotidienne, c'est un peu lourd. L'arc narratif du journaliste Luca Goodwin, qui tente de rassembler des preuves pour faire tomber Underwood, est très intéressant, mais il est très vite délaissé. Donc il y a aussi une histoire avec un hacker qui essaie de faire tomber les choses, mais Frank a un tel pouvoir qu'il arrive vraiment à mettre le holà partout, ce qui est assez effrayant quand même, après tout. Ça n'empêche que House of Cards, c'est intéressant parce que ça explose les frontières de la production audiovisuelle. C'est une série sans réelle saison, comme on l'entend généralement de septembre à juin, car elle est mise en ligne par Netflix en une fois. Et elle utilise les codes du théâtre, justement en faisant tomber le quatrième mur lors des apartés de Kevin Spacey, tout en étant destiné in fine à la diffusion télé à l'international. Et les épisodes ont une durée très variable aussi, allant de 40 à 55 minutes, ce qui ne colle pas vraiment au standard des chaînes télé.
C'est plus un standard HBO, effectivement.
Voilà, et elle est faite par des gens de cinéma aussi, hein. Spacey, White, Fincher.
C'est vrai qu'on retrouve donc aux manettes de la série Fincher pour les deux premiers épisodes. Est-ce que justement, c'était un peu de l'impulsion, l'idée c'était de pouvoir créer cet univers avec Fincher. Est-ce qu'on retrouve en tout cas la patte Fincher, même s'il n'est plus à la réalisation, sur l'ensemble des différents épisodes?
Oui, clairement. Là, il a créé une ligne graphique de la série avec une réalisation très cinématographique qui porte sa patte. Il a des filtres très bleutés en général dans ses films et une mise en scène au rasoir, au cordeau, rien ne dépasse. Et ben là, ça c'est du début à la fin, en tout cas des deux premières saisons, c'est maintenu. L'étalonnage est aussi assez typique dans les grains et dans les contrastes de couleurs. On ressent vraiment le travail de Fincher tout du long.
J'aurais voulu savoir, à ton avis, toi qui a aimé la série, en tout cas la première saison, est-ce qu'on n'en a pas trop fait autour d'House of Cards? J'ai cette impression-là, on en avait déjà discuté avec Héloïse justement quand on avait parlé de Orange is the New Black, qui pour moi était beaucoup plus intéressante que House of Cards à voir. Moi j'ai l'impression qu'on en a trop fait parce que c'était la première série Netflix et que finalement ce que tu expliques par la suite, j'ai l'impression qu'on se retrouve peut-être face à un pétard mouillé au vu de la deuxième saison.
Oui, en tout cas au vu de la deuxième saison. La première est quand même assez époustouflante, très bien faite et très bien écrite. Mais effectivement, on a mis une pression parce que Fincher, parce que Spacey, et c'est normal. Peut-être que les scénaristes se montent pas à la hauteur, en tout cas en deuxième saison.
Voilà, c'est sur cette conclusion qu'on va terminer ce dossier. On se retrouve très prochainement pour un prochain dossier de Frontières des séries. Merci à vous deux.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.